France Culture. Vous écoutez France Culture. Tout de suite, la série musicale. Zoé Sfez.
J'étais pas trop fervent de la pop et on m'a répondu, mais pourtant vous avez des mélodies, chantez, c'est ça. Bien sûr que oui, mais l'esprit n'est pas le même. Quand on part dans une production d'un titre pour danser, c'est ça qu'on fait, c'est ça l'image qu'on a en face.
I was at home actually in one afternoon, and I just was playing in my mind, I love you, I love loving you, I love to love you.
France Culture, la série musicale, Zoé Sfez.
And one day Brian Eno came with a record and told David, don't look for a new sound because Giorgio Moroder found it already.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de tous les plaisirs, une heure de radio sur la musique et la musique. C'est la série musicale, bienvenue. Deuxième épisode aujourd'hui de notre série consacrée aux origines du disco, ce genre musical, on pourrait même presque dire ce mouvement culturel qui a conquis le monde entier. Il y a en fait exactement 50 ans, 1975, et auquel la Philharmonie de Paris consacre une excellente exposition Disco I'm Coming In. On pourrait traduire par « Disco, je me révèle », que vous avez largement le temps d'aller découvrir puisque elle est visible jusqu'à la fin de l'été et elle vaut le détour. Le disco qui se part souvent dans nos esprits d'images d'Épinal assez caractéristiques. John Travolta qui danse sur les Bee Gees, Mick Jagger et Andy Warhol, la drogue, les femmes nues au Studio 54, Salvador Dali au Palace, voire Sheila sans les couettes et accompagné de disco boys noirs. Le disco comme une mode sympa mais aussi parfois de mauvais goût, un plaisir coupable qui nous permet d'arborer paillettes, épaulettes et sur lesquelles on ne peut s'empêcher de danser en se disant que quand même c'était pas mal de la bonne musique. Des images qui en fait sont pour la plupart issues de ce qui est devenu le disco dans l'imaginaire collectif et même de manière assez réelle après sa naissance, une naissance fondamentalement passionnante et des images qui nous renseignent absolument pas vraiment sur ce que fut en fait le disco, c'est-à-dire un changement radical dans la pratique de la danse et dans la construction de la musique, car c'est bien au disco que l'on doit l'invention du dance floor et celle d'une figure essentielle, le DJ, et de ce qu'on appelle aussi le call and response, ce dialogue qu'il entretient avec une foule de danseurs, de danseuses qui, dans un New York en pleine désindustrialisation, avaient peu d'argent, aspiraient à vivre une égalité, une liberté que leur avait promis le fameux été 69. Dans la première partie de cette série, on vous a raconté l'ère dite pré-disco, ou comment un certain New-Yorkais orphelin, David Mancuso, avait inventé un espace non commercial, son loft, où il diffusait des sons essentiellement noirs américains, mais aussi africains, ou latino sur d'excellentes enceintes et cherchait avant tout à recréer la montée que procure le LSD et ce grâce à la musique. Dans son sillage, une génération de jeunes hommes, souvent italo-américains, reprennent les mêmes disques et les jouent dans les quelques discothèques qui existaient encore à New York et qui étaient en plein déclin. Ils attirent du coup une nouvelle population lesbienne, gay, noire, latino qui ne danse plus en couple mais bien seule ou plutôt ensemble à plusieurs. En 3 ans seulement, sans même passer par la radio, les tubes jouent joués par ces DJ vont se vendre mieux que la musique des maisons de disques qui passent à la radio. Et les DJ s'imposent en fait de facto dans les studios. On s'était quitté avec cette partie 1 à l'année 1974, année où l'on va créer le top des ventes disco, le terme a fait son apparition, année où les DJ s'imposent, donc on l'a dit, en studio et deviennent en fait des producteurs. Le phénomène qui était encore largement seulement américain va devenir européen et mondial, jusqu'à se perdre dans une commercialisation et la création de lieux lieu devenu hyper élitiste, le Studio 64 ou le Palace, en fait assez loin de l'esprit démocratique et inclusif de ses débuts, tout autant qu'il aura ouvert la voie à un nouveau monde qui survit encore. C'est celui de la dance music, récit forcément lacunaire, hyper subjectif, mais toujours, c'est la promesse, hyper dansant, chaussez vos bonnes chaussures. On écoute du disco dans la série musicale sur France Culture. Oh, 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 oh.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them.
Fighting, les petits ho, la petite flûte, vous les avez tous en mémoire, car oui, Kung Fu Fighting, sorti en 74, est le 26e single le plus vendu de l'histoire de l'humanité, avec 11 millions d'exemplaires. Il a été numéro 1 dans plus d'une dizaine de pays, et dont dans différents classements américains. 74, ça fait 2 ans seulement que le mot disco existe, puisque c'est un journaliste qui lui-même allait beaucoup dans les fameuses soirées dont je vous ai parlé dans le premier épisode de cette série, les soirées du Loft, organisées par le fameux David Mancuso, celui qu'on va appeler rétrospectivement le fondateur du disco, qui paradoxalement détestait les discothèques, mais qui avait créé un environnement, un principe, l'idée qu'on puisse danser et suivre une immense montée grâce à la danse, grâce à un matériel sonore d'une qualité que personne en fait n'avait, le tout sans aucune interruption, alors que, rappelons-le, avant David Mancuso et tous les DJ qui, allant à ces soirées, vont ensuite reproduire ce système, cette montée, cette énergie dans les nouvelles boîtes qui pullulent à New York, avant ça, en fait, sur les dance floors, soit on dansait à deux, en couple, soit on dansait peut-être un peu plus seul, il y avait le twist, mais le but du DJ dans les boîtes d'avant 70, d'avant le disco, c'était de créer quelques parties dansantes, puis de ralentir le rythme pour que les gens soient obligés d'aller acheter de l'alcool. Et là, c'est fondamentalement l'inverse qui est en train de se jouer. Je vous l'ai raconté, entre 70 et 74, on va inventer d'une part cette logique en fait de la danse, l'émergence de ce dance floor sur lequel on danse d'abord sur des disques venus essentiellement de Philadelphie, des disques de soul, des disques de funk qui sont prolongés par ces hommes qu'on appelle maintenant les DJ, qui les enchaînent de manière plus ou moins voulue, de manière plus ou moins technique, créant des tempos qui n'existeront qu'une fois dans la vie puisqu'ils sont mixés en direct. Cette musique noire américaine qui est mixée en direct par les DJ, ensuite elle va se singulariser, on va la reconnaître avec l'invention de ce fameux disco beat. On vous l'a raconté aussi, inventé par un batteur noir américain, évidemment. évidemment. Il s'appelle Earl Jones, ce fameux 4 sur le sol, comme on dit, avec la grosse caisse, et un contretemps au Charleston qui fait que tout de suite on reconnaît ce qu'est un son disco. En 74, le top disco fait son apparition. Et là, vous avez donc cette association assez folle de Carl Douglas, un chanteur soul jamaïcain, qui est installé à Londres. Pourquoi est-ce qu'on vous passe ça? Parce que ce fameux disque, qui sera probablement l'un des plus vendus dans le monde et qui va être un énorme tube du disco en 74, eh bien, il vient effectivement de Londres. Carl Douglas, c'est jamaïcain qui est à Londres, qui va enregistrer une grande chanson et qui cherche une chanson pour sa face B. Alors, comme souvent, ce sont les faces B qui vont devenir d'énormes tubes, quoique ça va être de moins en moins le cas. Et pour cela, il travaille avec un producteur qui va devenir d'une certaine manière l'un des producteurs les plus importants du disco. Il s'appelle Bidou Appaya. Il est anglais, mais d'origine indienne. C'est lui qui, en fait, est concrètement à la création de ce morceau, qui organise les cuts, qui organise cette espèce de stratégie avec toutes ces espèces de petits gimmicks qui marchent très bien. Cette flûte, cette corde, cette gamme pentatonique qui évoque de la musique chinoise, avec ce thème complètement dingue du Kung Fu Fighting. Douglas, en fait, va retourner à de la chanson soul, mais Bidou Appaya, lui, va devenir l'un des plus grands producteurs de la disco. On va essayer d'écouter ensemble ce qui concrètement va bouger en à peine 3 ans, entre 74 et 77. 77, c'est le moment où le monde entier va basculer dans la disco, attirant absolument tout le monde. C'est ce moment où toutes les grandes stars de tous les pays vont être obligées de faire de la disco, des Jackson 5 à Sheila. Mais que s'est-il passé entre-temps? Jusque-là, le disco, c'est une musique essentiellement jouée par des Noirs américains de la soul, avec l'apport de producteurs qui, eux, sont plutôt des producteurs blancs et qui sont la plupart du temps des DJ ou qui se sont formés dans la discothèque, donc qui savent comment construire un son pour qu'elle marche sur les dance floors. Il y a évidemment l'omniprésence du rythme. Écoutons en 74 l'un des morceaux les plus beaux de la première partie du disco. C'est George McRae et Rock Your Baby, encore un de ces titres disco qui, dans les premières années, évoque inlassablement le thème qui fascine et que tout le monde veut vivre, c'est-à-dire l'amour. Vous allez écouter comment ce son débute uniquement sur la percussion. C'est ce qu'on retrouvera ensuite dans les productions disco beaucoup plus électro des Céron et des Moroder qui annoncent plus tard la dance music. Fly Robin Fly par le groupe Silver Connection sur un album qui s'appelle Save Me. On est en 75 et c'est le premier single enregistré en Europe qui se classe directement numéro 1 du top disco américain et aussi donc du top US, mais qui obtient le Grammy Award du meilleur instrumental R&B en 76. En fait, ce qui est intéressant avec ce son, c'est que c'est un son qui est très largement inspiré du Love Theme dont vous avez déjà entendu. Vous avez raconté la genèse dans notre premier épisode, qui est en réalité produit par des Allemands. Et c'est globalement un son qui va annoncer l'électro-disco Silver Connection. C'est donc l'alliance de Sylvester Silver Levey et de Stefan Prager, alias Michael Kunze. Alors évidemment, on est sur toute une foule de compositeurs qui ont toute une foule de pseudos, qui en fait sont basées à Munich. Ce sont, et c'est ça qui est intéressant, des chanteuses dites de studio qui posent leur voix. On n'est pas sur des grandes divas du disco. On n'est pas allé chercher des chanteuses qui existaient déjà dans un registre, en l'occurrence gospel ou funk, comme aux États-Unis, puisque c'était parce qu'elles étaient déjà dans ce genre qui, d'une certaine manière, a donné naissance à la disco qu'elles vont être présentes. On va y revenir. Là, on est vraiment sur un titre de producteur. Vol, rouge-gorge, vol, c'est les seules paroles de ce titre. C'est donc la musique avant le texte. Le propos est très clair, et d'ailleurs en plus un texte qui n'a littéralement quasiment aucun sens. En fait, en 75, on est vraiment en train de vivre ce qui va vraiment marquer ce tournant, c'est-à-dire les producteurs, la musique, les synthés et la batterie avant tout. L'une des grosses influences de Silver Connection, c'est un titre qui est sorti quelques mois auparavant et qui marque déjà une grosse évolution dans ce qu'est la disco, qui le danse et comment. On vous a parlé des premiers clubs, le Loft donc de David Mancuso, qui en fait n'était pas une discothèque, qui n'était pas payante, mais aussi The Gallery, The Sanctuary, ces premiers clubs qui ont instauré une ambiance et un son disco. Ils vont être supplantés par de nouvelles boîtes qui ouvrent alors qu'elles ferment, la plupart du temps sous la pression de la police, qui a toujours un peu des problèmes avec le fait qu'on fasse la fête au-delà 3h du matin, qui est l'heure légale à New York, aussi qu'on prenne de la drogue et qu'il y ait un mélange assez inédit entre gays, noirs, latinos, blancs. Évidemment, la nouvelle chanson disco qui avait profondément marqué ce début 75, c'est un son inventé par un producteur de R&B, Van McCoy, The Hustle, qui va se classer en tête des charts et populariser une nouvelle danse, The Hustle, dans son sillage. C'est là, concrètement, que les maisons de disques vont vraiment beaucoup s'intéresser à ce nouveau genre. La lutte. Nouvelle danse de plus en plus sur ces discothèques, sur ces dance floors qui étaient vécus comme des moments très démocratiques. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de danseurs, de plus en plus de tendances. Et là, les maisons de disques ont compris qu'il faut que ça se fasse avec elles. En quelques mois, c'est cette année 75 qui est fondamentale. Tout le monde va se lancer dans le disco. Warner Bros. Brothers lance un programme pilote de singles de discothèque. On essaie de trouver des trucs qui vont marcher en discothèque depuis le studio, alors que c'était concrètement avant l'inverse. C'était ce qui marchait au dance floor, qui ensuite était repris à la rigueur en studio. Et c'était une forme de dépendance des studios par rapport au dance floor. Là, concrètement, les maisons de disques vont commencer à miser sur des producteurs qui viennent des discothèques pour, elles, imposer le rythme. Se lance alors ce qu'on appelle le marché du disco, les Bee Gees, groupe folk rock qui était un peu en perte de vitesse, enfin enregistré un titre disco intitulé Jive Talking, on va pas vous le passer parce que vous le connaissez très bien. David Bowie se dit fou de ce nouveau genre et part produire un album au Sigma Sound Studio de Philadelphie, cette ville d'où tout était parti. C'est devenu n'importe quoi. Tout le monde se met au disco, les rockers, les vieux de la soul, jusqu'aux obscurs petits labels de jazz. Ils ont bien compris que n'importe qui avec ça peut cartonner. Cette ruée vers l'or du disco ne va pas nuire alors justement à ces DJ qui étaient soit DJ, soit producteurs. C'est le cas du légendaire Tom Moulton, je vous en ai parlé. Il est devenu célèbre en imposant, en créant ce qu'on a appelé le disco mix. Le disco mix, concrètement, c'était lui qui essayait de mixer différents morceaux du disco ensemble et qui, ne trouvant pas de disques, ne trouvant pas les bons disques, invente en fait un format, c'est ce qu'on appelle le maxi, où il découvre qu'on peut mettre plus de musique sur un 45 tours, mais qu'en plus, elle va sonner plus fort. À côté de ça, en parallèle de ça, ce qui s'est passé, c'est que 2 ans auparavant, il y a eu un producteur très important qui est arrivé, lui aussi, de Munich. Il s'appelle Giorgio Moroder et il va donner le la, il a déjà donné le la, d'une partie de ce que la couleur du disco va s'imposer, de la couleur de la plus importante dans les années qui viennent. Moroder, c'est un Italo-Allemand qui, au début des années 70, s'est associé au producteur et parolier Pete Bellotti et qui a enregistré quelques succès en Allemagne, Nartig Dunson, que je dis très très mal, sur lesquels on peut entendre, et ça c'est fondamental, l'un des tout premiers synthétiseurs de Robert Moog, un synthétiseur hyper rudimentaire, mais c'est déjà l'instrument de prédilection de Moroder. Et à ce moment-là, les deux producteurs vont faire connaissance de Donna Summer, mais pour l'heure, laissons Giorgio Moroder nous expliquer quel était son rêve. On va l'écouter dans un monologue hyper important, c'est un monologue que vous retrouvez sur un album d'un groupe français mondialement connu, il s'appelle les Daft Punk, et ils estiment qu'ils doivent tout à ce fameux producteur qui a changé le monde avec I Love to Love You Baby en 73. Quand j'avais 15 ou 16 ans et que j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais vraiment envie de devenir musicien. C'était presque impossible, le rêve était si grand. Je ne voyais absolument pas comment je pouvais y arriver. J'étudiais, je vivais dans une toute petite ville, et quand j'ai fini par quitter l'école et que je suis devenu musicien, que j'ai pu en vivre, je me suis dit, peut-être que j'ai une chance. Parce que tout ce que je voulais vraiment faire, en fait, c'était composer de la musique. À ce moment-là, en Allemagne, en 69-70, il y avait déjà des discothèques. Et donc je prenais ma voiture, je roulais jusqu'à une discothèque pendant plusieurs heures. Et j'avais un set de presque 30 minutes, je jouais 6-7 chansons. Je dormais dans ma voiture parce que je ne voulais pas rentrer chez moi. Et c'est ça qui m'a permis en fait de survivre pendant 2 ans. À mes débuts. Mon rêve absolu, c'était de faire un album où on puisse retrouver le son des années 50, celui des années 60, des années 70, et puis pourquoi pas inventer le son du futur. Et je me suis dit, mais il y a quand même ces nouveaux instruments, les synthétiseurs. Je sentais que ça pouvait être le son du futur. Pourquoi je m'en sers pas? Mais je n'avais aucune idée de ce que je pouvais en faire. J'ai compris qu'avec un clic, et qu'en le synchronisant au synthétiseur Moog, je pouvais peut-être inventer un son du futur. Je n'avais pas compris, en revanche, l'impact.
Mon nom est Giovanni
Giorgio.
Everybody calls me Giorgio.
Tout le monde m'appelle Giorgio. Thank you. Socialement, le dance floor, la figure du DJ, le principe même de danser en montée pendant plusieurs heures, on le doit au disco. Évidemment, ces sons d'électro-disco qui vont naître en fait dans ces trois années annoncent tout ce qui se passera ensuite, et notamment les Daft Punk, d'où cette track qui s'appelle Giorgio by Moroder, qui est un hommage très direct à ce qu'il invente. Invention qui est remarquée par le monde entier en fait quelques années avant le début qu'on a choisi pour cette série, à savoir en 73. C'est lui, et donc avec son camarade depuis Munich, qui va découvrir Bellotte, qui va découvrir entre guillemets une femme qui est déjà en fait une chanteuse de soul, qui s'appelle Donna Summer. L'idée, c'était à l'époque de faire un son qui serait influencé par la sortie de Je t'aime moi non plus de Jane Birkin et Serge Gainsbourg, un son qui serait profondément sexy. Moroder a demandé à Diane Sommer si elle était prête à jouer le rôle de Birkin, à performer quelque chose. Et c'est ainsi que naît ce « I love to love you, baby » avec l'idée de construire un son autour du râle du plaisir, non pas masculin, mais pour une fois, du plaisir féminin. Les paroles sont une trouvaille de Donna Summer. L'expression « I love to love you, baby », mais j'avais envie qu'il la donne à d'autres filles parce qu'elles étaient déjà très olé olé, vous voyez. Moi, j'étais beaucoup plus une humoriste, en fait, j'étais la fille drôle. Si vous demandez à quelqu'un qui me connaissait à l'époque qui j'étais, il vous dira que j'étais un peu en mode Lucy Ball, je faisais des blagues. Ça a été un vrai ajustement à faire pour moi. Quand je suis arrivée aux États-Unis après l'enregistrement, ils m'ont dit « Montre-nous que tu es sexy, fais la fille sexy. Allez, vas-y, fais ça. » C'est là que j'ai décidé de m'inspirer de Marilyn Monroe. C'est l'idée de ce que je trouve sexy. Et donc, je me suis produite dans une tenue à la Marilyn, qui est devenue un personnage, Black Marilyn ensuite. C'est cette influence qui m'intéressait parce que Marilyn, en fait, elle a posé nue, bien sûr, mais de manière générale, elle avait une approche assez innocente de la sexualité. Même si tout le monde pensait qu'elle était idiote, on sait en fait qu'elle était assez brillante et très cultivée. Et c'était une performance. Donna Summer qui raconte comment elle a dû s'ajuster après le succès immense, deux ans, quasiment un an et demi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des temporalités entre le moment où les morceaux sont produits et les morceaux et le moment où ils vont exploser, puisque c'est un morceau donc qui est enregistré avec ses producteurs qui sont allemands et qui sont en fait découverts, qui explosent plutôt en 75, c'est-à-dire un an et demi après cet enregistrement de Donna Summer. Donna Summer qui va devenir l'une des grandes disco divas, la rivale sans vraiment l'être de celle qu'on vient de baptiser dans une boîte à New York, la reine des discothèques. J'ai nommé Gloria Gaynor, qu'on avait bien entendu l'année dernière, qui était vraiment devenue une immense star du disco avec son Never Can Say Goodbye en 73, en même temps que le style explosait. En fait, en 75 se passent plusieurs choses. L'arrivée, on l'a entendu, de personnalités venues d'Europe, l'incroyable capacité des maisons de disques à produire du son disco avec tout le monde et n'importe qui. On est très loin en fait de ces sons qui avaient une espèce d'âme, de logique dansante en eux-mêmes, des sons sud-américains mais des sons africains. On a parlé de Sol Makusa qui avait donné naissance à ce genre. Surtout, ce qu'il y a, c'est que les groupes, les clubs new-yorkais où se vit la disco commence à se multiplier. La boîte en 75 est la plus aimée. Le roi des clubs de New York, c'est le Jardin, un nom français évidemment, avec une assemblée qui est en train en fait imperceptiblement de changer, même si ça n'avait jamais été un club strictement gay. On y trouvait beaucoup d'habitués gays et d'à peu près toutes les couleurs. Sauf que de plus en plus de grandes stars vont venir, Andy Warhol, David Bowie, Rodolphe Nureyev, Pierre Cardin, Truman Capote et j'en passe, qui vont lui forger une réputation d'avant-garde. Et avec tout cela, évidemment, la tentation, c'est plus de recevoir tout le monde, mais de faire de plus en plus d'argent. Il se trouve que les personnalités de ces disco-divas vont beaucoup jouer hein, dans l'aura des différentes boîtes de nuit qui vont exploser et porter ce mouvement du disco à New York. Parmi ces fameuses disco-divas, force est de constater que la plupart sont noires. Toutes n'auront pas le même statut. On avait très envie ici de jouer l'un des plus beaux titres, selon nous, du disco. Il est porté par Candice Tayton, qui ne sera jamais l'une des plus importantes disco divas, mais dont clairement le titre le plus vendu dans l'histoire est un titre qui s'appelle Young Heart, Run Free, Jeune Cœur, Soyez Libre, qui est un peu à l'image de ces nouveaux titres portés par des femmes noires, c'est le postulat de l'exposition de la Philharmonie, vivent un moment afro-féministe. On est dans des chansons qui, la plupart du temps, vont incarner ou d'écrire quelque chose qui est de l'ordre de la libération sexuelle, mais pas que. Young Heart Run Free, Candice Tayton chante, enjoint les jeunes gens à vivre librement et à ne pas s'enfermer comme elle le fait dans une relation toxique avec son mari. Elle qui n'arrête pas tout au long de cette chanson qui est profondément gay de se dire un jour, j'aurai la force de break free, c'est-à-dire de m'évader.
Sense in sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man.
Hung up, hung.
Candy Staten, Young Heart Run Free. L'une des autres grandes divas de cette période, alors on la connaît moins paradoxalement, alors qu'elle a été sans doute l'une des voix les plus importantes de la période, s'appelle Lolita Holloway. Elle est elle aussi issue de la grande tradition gospel, soul. Vous allez l'entendre ici dans un des aspects de la disco qu'on a un peu oublié et qui pourtant est absolument fascinant, c'est qu'il se construit, il se développe dans la même ville et au même moment qu'un autre style musical fondamental pour comprendre la vie. On y a Jack Ross qui a créé une large émission, c'est évidemment la salsa qui est née à New York, à peu près dans les mêmes quartiers que le hip-hop, aux alentours des années 73. Une partie des grandes stars de ce label inouï qui crée la salsa, qui sont les Fania Records, vont évidemment rencontrer hein, cette énergie du disco, s'y consacrer de manière plus ou moins régulière, de manière plus ou moins évidente. Mais il se trouve, on a parlé que plusieurs grandes personnalités des débuts du disco étaient clairement issues de la communauté latino et de sa structure. On vous a parlé de Giubata, on vous a parlé de Barabbas. Parlons maintenant du Salsoul Orchestra, qui donc, comme son nom l'indique, fait la fusion entre salsa et soul. Écoutez ce fameux tube qui va marquer l'année 75 avec donc une formation mi-latino, mi-déjà producteur de disco, avec à la voix Lolita Holloway, Runaway, là encore il s'agit de fuir. Salsoul Orchestra, la fusion, la rencontre assez géniale entre Vince Montana, qui avait participé à la création du disco au sein du fameux groupe MFSB, et qui rencontre donc le grand groupe portoricain pour créer ce Salsoul Orchestra. C'est à peu près les mêmes que celles du MFSB. Et vous entendez ici la fameuse voix de Lolita Holloway, gospel soul, voix d'exception, des voix les plus puissantes, franchement, on peut le dire, du disco. Peut-être nous plaît encore plus que les deux autres divas du disco, qui travaille énormément, hein, qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de persona, beaucoup de charisme, qui se laisse pas du tout marcher sur les pieds. Symbiose parfaite hein, entre ces deux... Ces musiciens et cette chanteuse qui vont être un grand succès des années 77, Lolita Holloway qui est à l'origine de plus de 10 tubes disco entre les années 76 et 77. En 76, toujours l'un des plus gros succès, C'est Don't Leave Me This Way par Thelma Houston. Vous allez l'entendre, vous allez la reconnaître, cette version. C'est sans doute la plus célèbre. On avait envie de vous donner à entendre aussi la chanson dont elle est déjà une reprise. C'est hyper intéressant, cette fameuse tension entre ces deux versions de Don't Leave Me This Way, Ne me laisse pas comme ça. Je ne peux pas survivre sans ton doux amour. L'amour est toujours au cœur des thématiques du disco. Oui, mais vous allez entendre, Thelma Houston chante la version qui devient la plus célèbre en 76. Elle reprend une chanson qui n'a que un an, toujours dans Leave Me This Way, qui avait été chantée plus tôt par Harold Melvin and the Blue Note, le groupe qui avait inventé le disco beat, avec l'un des chanteurs les plus charismatiques de l'ère disco, en tout cas de l'ère où il y avait encore beaucoup de musiciens et donc encore très peu de synthé, c'est-à-dire Teddy Pendergrass. Vous allez entendre la différence concrètement de son qu'il y a entre ces deux versions à un an d'écart. Ce n'est pas un hasard si c'est la version de Thelma Houston qui triomphe. Vous allez l'entendre, elle est à l'image de cette fameuse couleur disco qui a déjà été imbibée d'Eurodisco et qui a déjà une résonance, un goût bien plus commercial. Thelma Houston est en fait une chanteuse du label Motown qui n'avait pas sorti grand chose de significatif depuis 71, et donc la Motown qui veut absolument concurrencer les productions Gamble & Huff, qui sont le label où se produisent justement Harold Melvin and the Blue Notes et toute une série de groupes noirs américains qui ont vraiment réussi à s'engouffrer dans le mouvement disco, en grande partie parce qu'ils l'ont co-créé, vont choisir ce titre qui était une phase B de Harold Melvin and the Blue Notes et qui n'était même pas sorti en single. Ils vont faire quelque chose de très concret, monter la tonalité, accélérer le tempo et surtout réduire quasiment toutes les interventions de l'orchestre pour mettre en avant un truc, le groove disco et la voix de Thelma Houston. Ça va avoir un succès tel qu'on arrive tout de suite à la première place des top disco. Tout le monde va à peu près copier ce son. On peut noter la parenté très forte entre cette version de Don't Leave Me This Way et un titre qu'on adore mais qui en fait est assez plagiaire, on peut le dire, Yes Sir I Can Boogie du groupe espagnol Baccara. On a quand même envie de vous donner à entendre la version originale et la voix incroyable de Teddy Pendergrass pour comprendre aussi ce qui, aux alentours des années 77, est en train de se perdre, ou plutôt en train de naître, selon qu'on est plus ou moins fan du tournant qui est en train de prendre ce genre qui se vend à des milliers d'exemplaires partout dans le monde. Thank you.
can't stay alive without your love. Don't leave me this way, no. I can't exist, I'll surely miss your tender kiss. Don't leave me this way, no. Don't leave me this way, yeah. A broken man with empty hands. Baby, please, please, don't leave me this way.
Incroyable, merveilleux, Teddy Pendergrass. Et incroyable aussi, cet orchestre des Harold Melvin and the Blue Note, une section rythmique absolument géniale, les inventeurs du disco beat qui le mettent en pratique de manière très organique. Que s'est-il passé entre ces deux versions qu'on vient d'écouter dans un sens achronologique? Eh bien, il s'est passé évidemment la montée en puissance de ce qu'on appellera l'électro-disco avec le succès énorme en boîte de nuit. Fin 76, début 76, d'un son dont personne ne connaît l'origine. Ce son s'appelle Love in C minor. Il a été enregistré par un certain Cerrone, comme on dit côté américain, dans un studio anglais. C'est encore une fois David Mancuso qui l'a trouvé, qui va le jouer. Énorme succès de ce son dont la piste sonore évoque les râles, encore une fois, du plaisir féminin, qui fonctionne extrêmement bien et qui a conservé, vous allez l'entendre, hein, cette même percue d'ouverture qu'on peut entendre sur cette version de Don't Leave Me This Way, qu'on avait aussi sur Rock Your Boat, qui nous rappelle que c'est le groove, qui en l'occurrence c'est les quatre, comme on dit, les quatre au sol de la grosse caisse qui sont à l'origine de cette musique. Le succès est énorme, les boîtes, les maisons de disques veulent absolument signer cet artiste inconnu, Cerrone. Ils se rendent à Londres, dans les studios où ça a été enregistré, les studios du Trident donc, qui expliquent que cet homme était un Français, qu'il est apparu et qu'il a disparu aussi sec pendant un an et demi. D'ailleurs, on va faire des copies pour pouvoir, d'une certaine manière, vendre ce son. Un an et demi passeront avant que Marc Cerrone, ce Français d'origine italienne, qui avait déjà eu un groupe de musique qui avait plutôt bien marché, les Congas, et qui entre-temps était passé à autre chose, avait commencé à ouvrir des magasins de disques, et s'était fait le kiff, on peut le dire, le plaisir d'aller enregistrer au studio du Trident une musique qui lui plairait à lui, qui était rentré à Paris, avait essayé de vendre son disque à quelques drugstores, et puis pensait que tout ça avait fait flop. Il ne savait pas que depuis 9 mois, son morceau tournait en boucle à New York. Une fois qu'il l'a compris, il arrive dans la Grande Pomme et là, ça va être l'explosion. Il passe à la télévision entre les Jackson 5, Quincy Jones et Ray Charles. Il est le seul blanc et il adore ça. Cerrone, Love in C minor.
I need more champagne.
Oh,
it's
here.
Gone.
Here
it's finished.
Oh, here, have some.
Oh. There you go.
Susie's hey, looking at you.
I'm Susie. Doing better,
right? Looking at you.
Susie, he's looking at you.
Oh. Is he? Oh, great.
Uh-huh. Well, you're on for tonight.
Oh, yeah. Seems like it, doesn't it? Uh-huh. Oh, wow. Look at him. Look at him.
Le bûcheron, c'était le surnom de Cerrone, qui est batteur de formation. C'est comme ça que la critique française se moquait de lui quand il était encore le batteur de ce groupe Les Congas, produit et repéré par Eddie Barclay dans le Saint-Tropez du début des années 70. Le bûcheron, c'était en fait très péjoratif, manière de dire qu'il était obsédé par le rythme et que ce rythme était trop central dans une musique française, européenne, qui n'avait pas encore été touchée par ce mouvement du disco. Et sa qualité de bûcheron va justement faire de lui, avec Moroder, l'un des producteurs européens les plus influents. Ce Love in C minor qui, comme vous l'entendez ici, met en scène une discussion entre des femmes qui vont tout au long de ce long son à la fois chanté et mimé des Eba vont à la fois faire scandale puisque la couverture montre Céron avec une femme nue à ses côtés. Lui se défendra toujours du sexisme, expliquant que c'était à l'initiative des choristes du studio que la chanson, qui était uniquement rythmique au début, avait pris cette tournure. Le fait est que ce disque était arrivé totalement par hasard dans les studios américains, à la place de CD cassé de Barry White, et que, avec cette avalanche de cordes qui tient autant de Barry White justement que de la longue tradition symphonique italienne et ce beat profond, Céron annonce, affirme encore plus l'électro-disco qui annonce la dance music, toute une série de genres qui vont lui succéder. Love in C minor, qui sera suivi évidemment de Supernature, annonce aussi un morceau qui sortira quelques mois plus tard et qu'on doit à Moroder, le premier morceau disco où il n'y a plus aucun musicien humain. Love Me in C Minor, produit en 76, devenu la leçon de l'année 77 aux côtés d'autres sons évidemment. Entre temps, on ne vous l'a pas dit, mais on débarquait évidemment à bas les Suédois. Les Jackson 5 se sont mis au disco, on vous l'a dit, tout le monde s'est mis au disco. Bonnie M, ce groupe créé ex nihilo par un producteur allemand. Vous l'avez compris, les producteurs sont devenus omniprésents. Les boîtes sont de plus en plus élitistes. 77, c'est l'année où naissent à 2 semaines d'écart la boîte disco par excellence Studio 54, dont la durée de vie n'est que de 30 mois, qui incarnera la gloire du disco, mais aussi sans doute ses excès. Il y a désormais un videur, tout le monde ne peut pas rentrer, on est loin du désir, de l'ambition des débuts. 77, c'est aussi la création d'un album qui va énormément compter. Un album où l'on retrouve Giorgio Moroder au platine, avec à la voix toujours l'inénarrable Donna Summer. Un album entièrement pensé sur synthétiseur qui, d'une certaine manière, ouvre le dernier sursaut de gloire du disco, mais aussi la voix à la musique qu'on écoute toujours, la musique électronique.
There was a time in 77,
en 77, je me suis dit, finalement, est-ce que ce serait pas chouette d'avoir une chanson basée uniquement sur le synthétiseur?
No,
pas de batterie, pas de piano,
only
juste du synthé. Donc j'ai loué un énorme synthé Moog. J'ai commencé par construire la ligne de basse. J'avais placé un clic sur l'une des pistes pour que ce kick se répète à l'infinie. C'était magique à l'époque. Parce qu'en fait, je pouvais jouer, moi, 3 notes. Et ça continuait automatiquement à l'infini. Avec un ordinateur, on pouvait tout créer, en fait. Et j'ai même réussi. En fait, je partais dans un son blanc.
And then you cut it,
je le coupais,
it So I recreated
et j'ai recréé quasiment tous les instruments rythmiques dont j'avais besoin, la grosse caisse, le clavier. Tout ce que vous entendez sur I Feel Love est synthétisé, sauf le clic de la batterie. Ça, j'arrivais pas à le recréer. C'est le seul musicien humain de cette chanson, à part évidemment la voix de Donna. Vous allez devoir imaginer la voix de Donna Summer, car c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de notre série aux origines du disco. N'oubliez pas l'exposition Disco I'm Coming In à la Philharmonie de Paris, les excellents ouvrages que nous vous mettrons en référence sur le site de la série musicale. Série musicale dont l'attachée de production est la merveilleuse Laura Dutèche-Pérez, une émission réalisée par Cassandre Puel aujourd'hui avec Dalia au platine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de la série musicale pour y retrouver tous les épisodes de cette série et de toutes les autres à la semaine prochaine. Prochaine.